Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 11. Les barons voleurs, les rebelles. Cinquième partie. Début 1892, pendant que Carnegie était en Europe, la scierie Carnegie de Homestead, en Pennsylvanie, aux environs de Pittsburgh, était dirigée par Henry Clay Frick. Ce dernier décida de réduire les salaires et d'éliminer les syndicats. Il fit élever une clôture de 5 km de long et de 3,50 m de haut, surmontée de barbelés et trouée de meurtrières pour permettre le passage des fusils. Lorsque les ouvriers refusèrent les diminutions de salaire, Frick licencia tout le monde et loua les services de l'agence Pinkerton pour défendre les briseurs de grève. Bien que 750 seulement des 3888 ouvriers de Homestead avaient été syndiqués, 3000 d'entre eux votèrent massivement la grève. L'usine était située sur la Monongahela River et un millier de grévistes formèrent un piquet de grève pour en surveiller les abords. Un comité de grévistes s'empara de l'administration de la ville. Le shérif tenta vainement de constituer un groupe de citoyens pour s'y opposer. Dans la soirée du 5 juillet 1892, des centaines d'employés de l'agence Pinkerton s'embarquèrent sur des barges en aval de l'usine où les attendaient 10 000 grévistes et leurs partisans. La foule interdit aux équipages des barges de débarquer. Un gréviste qui avait sauté sur la passerelle tira sur un garde Pinkerton qui tentait de l'écarter. Au cours de la lutte qui s'ensuivit, 7 ouvriers trouvèrent la mort. Les Pinkerton durent rembarquer. Attaqués de tous côtés, ils décidèrent de se rendre. La foule en furie les roua de coups. Il y eut des morts dans les deux camps. Les jours suivants, les grévistes gardèrent le contrôle des environs. L'État finit par s'en mêler. Le gouverneur dépêcha la milice, équipée des armes les plus récentes, pour protéger l'arrivée des briseurs de grève. Les principaux responsables de la grève furent accusés de meurtre. 160 autres grévistes furent jugés pour divers crimes. Tous furent acquittés par des jurys compréhensifs. On arrêta alors l'ensemble du comité de grève pour trahison envers l'État, mais aucun jury ne voulut les condamner. La grève dura encore 4 mois, mais l'usine continuait de produire de l'acier grâce aux briseurs de grève, qu'on avait le plus souvent acheminés sur place dans des wagons blindés et qui ignoraient pour la plupart leur destination. Les grévistes, sans ressources, acceptèrent de retourner au travail et les meneurs furent mis sur liste noire. Cette défaite peut s'expliquer, entre autres, par le fait que la grève était circonscrite à l'usine de Homestead pendant que les autres usines Carnegie continuaient de fonctionner. Quelques ouvriers des hauts fourneaux se mirent bien en grève, mais ils furent rapidement contraints d'abandonner. Cette défaite mit fin à toute tentative de syndicalisation des usines Carnegie, et les travailleurs supportèrent des baisses de salaire et des augmentations d'horaires sans résistance. Au beau milieu de la grève de Homestead, Alexander Berkman, un jeune anarchiste de New York, décida, en accord avec quelques amis anarchistes, dont sa maîtresse Emma Goldman, de se rendre à Pittsburgh. Résolu à abattre Henry Clay Frick, il réussit à pénétrer dans son bureau. Mais il ne fit que le blesser. Berkman fut capturé, emprisonné et finalement jugé pour tentative de meurtre. Il passa 14 ans au pénitencier de l'État. L'autobiographie d'Emma Goldman, Living My Life, illustre parfaitement cette colère, ce sens de l'injustice et ce désir d'une vie différente qui habitait les jeunes radicaux de l'époque. L'année 1893 fut marquée par la plus importante crise économique de l'histoire du pays. Après plusieurs décennies de croissance industrielle sauvage, de manipulation financière, de spéculation et de profits non contrôlés, tout s'effondra. 642 banques firent faillite et 16 000 entreprises fermèrent leurs portes. Sur 15 millions de travailleurs, 3 millions se retrouvèrent au chômage. Aucune législature d'État ne vota de mesures particulières, mais des manifestations gigantesques à travers tout le pays obligèrent les municipalités à organiser des soupes populaires et à offrir des emplois publics. Lors d'un important rassemblement de chômeurs à l'Union Square de New York, Emma Goldman invita ceux dont les enfants mouraient de faim à se servir directement dans les magasins. Elle fut arrêtée pour incitation à la violence et est condamnée à 2 ans d'emprisonnement. À Chicago, on estimait à environ 200 000 le nombre de chômeurs. Tous les soirs, le sol et les escaliers de l'hôtel de ville et des postes de police étaient occupés par une foule d'hommes cherchant le sommeil. La crise dura plusieurs années et entraîna une véritable déferlante de grèves. La plus importante d'entre elles, la grève générale des cheminots, éclata en 1894 dans les usines de Pullman, aux environs de Chicago. Si l'on en croit le rapport de 1890 du commissaire au travail, les salaires annuels des cheminots s'élevaient à 957 $ pour les mécaniciens, les aristocrates du rail, 575 $ pour les conducteurs, 212 $ pour les chefs de train et 124 $ pour les simples cheminots. Le travail dans les chemins de fer était une activité particulièrement dangereuse. Chaque année, les accidents du travail faisaient plus de 2000 morts et environ 30 000 blessés chez le cheminot. Les compagnies ferroviaires invoquaient alors la volonté divine ou la négligence des employés. Néanmoins, le Locomotive Fireman's Magazine affirmait « Le fait est que les dirigeants des chemins de fer réduisent le personnel et exigent de leurs employés qu'ils fassent le double de travail, ce qui implique un manque de repos et de sommeil. Les accidents sont donc imputables à l'avidité de cette corporation. C'est la crise de 1893 qui poussa Eugène Debs à consacrer sa vie au syndicalisme et au socialisme. Debs était originaire de Terre Haute, dans l'Indiana, où ses parents tenaient un commerce. Il avait travaillé pour les chemins de fer entre 14 et 18 ans et avait démissionné lorsqu'un de ses amis était passé sous une locomotive. Il rejoignit ensuite la Railroad Brotherhood, mais s'opposa aux grèves de 1877, prétendant qu'il n'y avait pas nécessairement conflit entre le capital et le travail. Il fut pourtant profondément remué par la lecture du Looking Backward d'Edward Bellamy. Il suivit de près les événements de Homestead, de Cœur d'Haleine, ainsi que la grève des aiguilleurs de Buffalo. En pleine crise économique de 1893, un petit groupe de travailleurs des chemins de fer, dont Debs, créèrent le syndicat américain des chemins de fer pour fédérer les salariés de ce secteur. Debs déclara: l'un de mes principaux objectifs a toujours été l'union des travailleurs des chemins de fer, de les rassembler en une seule grande formation. L'inscription dans une classe nourrit les préjugés de classe et l'égoïsme de classe. Le souhait de toute ma vie a été d'unifier les travailleurs des chemins de fer, d'éliminer l'aristocratie du travail et de les réorganiser afin qu'ils soient tous sur un pied d'égalité. Selon David Montgomery, spécialiste de l'histoire ouvrière, les membres des Chevaliers du Travail affluèrent en masse, fusionnant de fait cette ancienne organisation avec le syndicat américain des chemins de fer. En juin 1894, les travailleurs de la Pullman Palace Car Company se mirent en grève. On peut se faire une idée de l'ampleur du soutien qu'ils reçurent au cours des premiers mois de la grève à la simple lecture de la liste des contributions.
Syndicat des typographes, syndicat des peintres et décorateurs, syndicat des charpentiers, 34e section du club républicain, police de Grand Crossing, département des eaux de Hyde Park, syndicat des laitiers, commerce de spiritueux de Hyde Park, poste de police de la 14e circonscription, les concerts suédois, les pompiers de Chicago, la chorale allemande.
Les grévistes de Pullman demandèrent la tenue d'une convention du syndicat américain des chemins de fer pour obtenir son soutien. Monsieur le Président et très chers frères du syndicat américain des chemins de fer, nous sommes en grève à Pullman parce que nous sommes désespérés. Nous avons rejoint le syndicat américain des chemins de fer parce qu'il représente pour nous un espoir. 20 000 âmes, hommes, femmes et enfants, tournent aujourd'hui leur regard vers vous, du fond de l'obscurité et du découragement, en attente du message d'espoir que vous seuls sur cette terre pouvez leur apporter. Vous devez tous savoir que notre grève a pour origine le licenciement de deux membres de notre comité de revendication. 5 réductions de salaire. La dernière fut la plus rude, avec près de 30% de diminution, alors que les loyers, eux, n'ont pas baissé. L'eau que Pullman paye à la ville, 8 cents les 4000 litres, il nous la revend 500% plus cher. Le gaz, qui est à 75 cents à Hyde Park, juste au nord de chez nous, Pullman nous le vend 2,25$. Lorsque nous sommes allés lui faire part de nos revendications, il n'a su que répéter que nous étions tous ses enfants. Pullman, l'homme comme la ville, est une véritable plaie pour le corps politique. Il possède les maisons, les écoles et les églises de cette ville à laquelle il a donné son nom autrefois obscur. Et cette gentille petite guerre, véritable danse de squelettes dans une vallée de larmes, continue et continuera éternellement, à moins que le syndicat américain des chemins de fer n'y mette fin. Le syndicat des chemins de fer répondit à cet appel. Il demanda à ses membres dans tout le pays d'immobiliser les wagons Pullman. Comme la quasi-totalité des trains de passagers était composée de ces wagons, cela entraîna le boycott, de fait, de tous les trains dans tout le pays. L'intégralité du trafic sur les 24 lignes ferroviaires partant de Chicago cessa rapidement. Les travailleurs sortaient les wagons de marchandises de leurs rails, bloquaient les voies, et expulsaient de leur cabine les mécaniciens qui ne voulaient pas coopérer. La General Manager Association, groupement des propriétaires de compagnies ferroviaires, engagea en vain un millier de suppléants pour briser la grève. Le ministre de la Justice, Richard Olney, ancien conseiller juridique des chemins de fer, obtint une décision de justice contre le blocage du trafic. Les grévistes ayant rejeté cette décision, le président Cleveland envoya les troupes fédérales à Chicago. Le 6 juillet, les grévistes mirent le feu à des centaines de wagons. Le lendemain, la milice de l'État intervint. Le Times de Chicago relata ainsi les événements. La compagnie C du 2e régiment a maté une foule d'émeutiers hier après-midi au croisement de la 49e et de Loomis Street. La police était sur place pour finir le travail. Nous ne sommes pas en mesure de donner le nombre des morts et des blessés parmi les émeutiers, car la foule a emporté la plupart d'entre eux. À Chicago, ce jour-là, 13 personnes trouvèrent la mort, 33 furent sérieusement blessées et 700 autres arrêtées. Sur toute la durée de la grève, il y eut environ une trentaine de morts et il fallut 14 000 soldats, policiers et membres de la milice pour y mettre fin. Debs fut arrêté pour avoir enfreint la décision de justice, lui interdisant de faire ou de dire quoi que ce soit en faveur de la grève. À cette occasion, Delps nia être socialiste. Mais au cours des 6 mois qu'il passa en prison, il s'intéressa au socialisme et discuta longuement avec des camarades socialistes. 2 ans après sa libération, Debs écrivit dans le Railway Times « La véritable question est celle de l'opposition du socialisme et du capitalisme. Je suis pour le socialisme parce que je suis pour l'humanité. La malédiction du règne de l'or dure depuis suffisamment longtemps et l'argent ne peut pas être le fondement d'une civilisation. Le temps est venu de régénérer la société. Nous sommes à l'aube d'un bouleversement universel. » Ainsi, les années 1880 et 1890 virent-elles l'explosion d'insurrections ouvrières mieux organisées que les grèves spontanées de 1877. Les mouvements révolutionnaires guidaient les luttes ouvrières et les idées socialistes influençaient la plupart des leaders ouvriers. Une nouvelle littérature radicale se développait, qui évoquait des changements fondamentaux et la possibilité d'une vie différente. À cette même époque, les revendications des fermiers, au nord comme au sud, blancs ou noirs, allaient bien plus loin que les protestations ponctuelles exprimées par les fermiers avant la guerre de sécession. Elles furent à l'origine du plus grand mouvement de révolte agraire que le pays ait jamais vu. Entre 1860 et 1910, l'armée américaine, débarrassant les grandes plaines de ces populations indiennes, permit aux compagnies ferroviaires d'y pénétrer et de mettre la main sur les meilleures terres. Les fermiers n'arrivèrent qu'ensuite pour occuper les terres restantes. Entre 1860 et 1900, la population américaine passa de 31 à 75 millions d'habitants. Désormais, 20 millions d'Américains vivaient à l'ouest du Mississippi. Le nombre des fermiers passa de 2 à 6 millions. Les villes surpeuplées de l'Est, ayant un grand besoin de produits alimentaires, le marché agricole intérieur fit plus que doubler. 82% de la production agricole était destinée au marché intérieur. L'agriculture se mécanisa. Charrues en acier, faucheuses, moissonneuses, batteuses et graineuses de coton améliorées pour permettre de séparer la fibre de la graine et, au tournant du siècle, les grandes moissonneuses-batteuses pour couper, battre et mettre en sac. En 1830, un boisseau de grains nécessitait 3 heures de travail. En 1900, l'opération ne prenait plus que 10 minutes. La spécialisation se développa selon les régions. Le coton et le tabac dans le sud, le blé et le maïs dans le Midwest. Mais la terre et les machines n'étaient pas gratuites. Les fermiers devaient donc emprunter en espérant que le prix de leur récolte resterait suffisamment élevé pour leur permettre de rembourser les prêts contractés auprès des banques et de payer le transport ferroviaire, le semencier et le stockage en silo. Malheureusement, ils découvrirent rapidement que le prix de vente de leur production baissait, tandis que le transport et les intérêts bancaires augmentaient. Contrairement au monopole ferroviaire et bancaire qui, en ce domaine, agissaient à leur guise, le fermier isolé ne pouvait pas imposer ses prix. On saisissait les terres et les fermes des petits propriétaires terriens qui ne pouvaient pas payer. Ils devenaient alors fermiers. En 1880, 25% de toutes les terres étaient louées à des fermiers. Ce nombre ne cessa d'augmenter dans les années qui suivirent. Ceux qui ne possédaient pas de quoi louer devenaient ouvriers agricoles. En 1900, ces derniers étaient déjà 4 500 000. Ces fermiers désespérés et exploités pouvaient-ils attendre une aide quelconque de la part du gouvernement? Dans son histoire du mouvement populiste, The Democratic Premise, Lawrence Goodwin explique qu'après la guerre de sécession, les deux partis étaient sous le contrôle des capitalistes. Ils restaient séparés entre Nord et Sud et campés sur leur animosité réciproque. L'émergence d'un parti réformateur qui dépasserait ses frontières pour unifier les classes laborieuses du Nord et du Sud, sans parler des Blancs et des Noirs, des étrangers et des Américains d'origine, était difficile à concevoir. Le gouvernement joua son rôle en soutenant les banques et en réprimant les petits propriétaires terriens. il maintint la masse monétaire, indexée sur les réserves d'or, à un niveau constant, alors que la population augmentait si rapidement qu'il y avait proportionnellement de moins en moins de monnaie en circulation. Les fermiers devaient donc rembourser leurs dettes avec des dollars qu'il était de plus en plus difficile d'obtenir. Les banquiers, en remboursement de leurs prêts, obtenaient des dollars valant plus que ceux qu'ils avaient prêtés antérieurement, ce qui constituait une sorte d'intérêt naturel, venant s'ajouter aux intérêts contractuels. C'est d'ailleurs pour cette raison que tant de revendications émanant des mouvements de fermiers ont trait à l'augmentation de la masse monétaire par le biais d'une émission de papier-monnaie ne correspondant pas à la réserve d'or effective du Trésor. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.